Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Jean-François Mattei, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université de Nice. Et nous avions déjà eu la chance de vous interroger sur deux ou trois livres importants, livres que je considérais être comme des livres de référence et presque des classiques. La barbarie intérieure, publiée au PUF en 1999. Le regard vide, essai sur l'épuisement de la culture européenne, publié chez Flammarion en 2007. Le sens de la démesure, Sulliver en 2009. Et puis, nous avions eu un entretien autour de Camus, philosophe, autour d'un petit livre que vous aviez fait paraître et que vous aviez dirigé, Albert Camus et la pensée de midi. Et donc vous nous revenez avec ce dernier livre, Le procès de l'Europe, grandeur et misère de la culture européenne. Alors sur l'Europe, on a l'impression de savoir déjà beaucoup de choses, d'avoir des idées relativement claires, et vous venez d'une certaine façon un peu chambouler toutes ces idées que nous connaissons déjà. Nous savons, ou croyons savoir, que l'Europe est une idée qui est en train de mourir, si elle n'est pas déjà morte. Nous assistons à son meurtre, le meurtre de l'Europe par les Européens eux-mêmes. Nous savons, c'est un peu l'opinion partagée par tous, que son universalisme serait devenu esclavagiste, antiféminine, homophobe, et que donc il serait temps désormais d'en finir avec ce modèle européano-centré. Alain Badiou, que vous citez dans votre livre, concluait l'une de ses interventions en disant que l'Europe n'est ni une catégorie politique, ni une catégorie nécessaire de la philosophie, et l'Europe donc est vide ou évide la pensée, disait-il. Il faut donc désormais être dans le multiculturel, dans le mélange des provenances, dans la mixité des identités, et l'Europe est désormais, pour toutes ces raisons-là, une réalité sans identité, une forme d'accumulation successive de crimes qu'il importerait d'expier de plus en plus. Et Ulrich Beck, donc un philosophe, définit l'Europe d'aujourd'hui comme une vacuité substantielle et une ouverture absolue. Donc, d'une certaine façon, l'affaire est entendue et les procurateurs, tous ceux qui accusent l'Europe, sont nombreux. Mais il manquait peut-être, et voilà l'objet, me semble-t-il, de votre livre, un avocat de l'Europe. Et à la lecture de votre livre, je me suis dit que vous alliez effectivement à l'encontre de bien des idées reçues et que vous preniez des risques nombreux et variés. Alors, je voudrais essayer de voir avec vous les différents thèmes que vous abordez pour essayer de sauver l'Europe ou pour essayer de reconsidérer l'Europe. Et c'est, me semble-t-il, ce que vous faites dans votre livre. Alors, le premier thème qui est très fort chez vous et qui apparaissait déjà dans votre livre, donc Le regard vide chez Flammarion, que nous avons déjà cité, Essai sur l'épuisement de la culture européenne, livre donc qui est paru en 2007. Donc, vous dites que l'Europe s'est faite non pas dans la fermeture, mais dans l'ouverture. Et que sa devise, dites-vous, devrait être plus ultra, c'est-à-dire toujours plus autre, devise qui était celle de Charles Quint. Alors, pourquoi faites-vous, alors qu'on critique justement tous les travers de l'Europe, pourquoi faites-vous de l'Europe une idée ou une idée culturelle qui serait ou aurait été toujours dans l'ouverture, dans le décentrement culturel ?
Vous faites bien de commencer par cette question, car je crois que c'est la question la plus essentielle pour définir l'Europe, ou plus généralement la pensée occidentale issue de l'Europe. En ce qui concerne l'ouverture, je m'appuie évidemment, comme d'autres auteurs, sur l'image qu'a donnée Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion, lorsqu'il distingue les sociétés closes des sociétés ouvertes, et qu'il distingue même l'âme close de l'âme ouverte. Donc il ne s'agit pas simplement des sociétés, mais des comportements quasiment spirituels ou intellectuels des sociétés. J'ai essayé, non pas simplement de défendre l'Europe, vous parliez d'avocat de la défense, je n'en suis pas tout à fait sûr, je serais plutôt comparable à un juge, si possible, le plus juste possible, qui essaye de voir quels sont les comportements historiques et intellectuels qu'ont partagé les Européens. C'est-à-dire, j'essaie d'être le plus objectif possible, j'essaie d'éviter toute subjectivité. Alors, il est certain que dans cet ouvrage en particulier, et non pas dans ceux que vous avez cités précédemment, j'ai essayé d'être un peu provocant. D'ailleurs, j'en parle dans l'introduction, en disant que toute philosophie est provocante au sens étymologique, c'est-à-dire d'appeler, vocare, pour une thèse que l'on défende. Et je cite même une phrase de Cicéron, qui parle de provocare ad populum, c'est-à-dire d'en appeler au peuple, en quelque sorte. Là, j'en appelle à la raison, ou j'en appelle à la raison européenne, pour essayer de voir dans quelle mesure elle a tendance à se refermer sur elle-même aujourd'hui, au lieu de conserver son ouverture. Alors, qu'est-ce que j'entends par ouverture ? J'entends par ouverture, derrière cette image bergsonienne, reprise d'ailleurs par Karl Popper quand il parle aussi des sociétés ouvertes, j'entends par ouverture le fait que l'Europe s'est toujours distinguée par un regard critique qui s'est ouvert sur d'autres domaines que les siens, c'est-à-dire sur des horizons de plus en plus larges et de plus en plus vastes qui culminent avec ce qu'on a appelé l'horizon de l'universel. C'est-à-dire que ce que a toujours visé l'Europe dans sa science, en particulier en mathématiques et en physique, dans sa politique, en particulier en démocratie, dans sa culture universelle apportée par le roman, par la poésie, par la littérature en général, l'Europe a toujours essayé de s'ouvrir à d'autres espaces intellectuels, culturels, spirituels. Et ces espaces d'ouverture l'ont toujours poussé à aller de l'avant, c'est-à-dire à avoir une dimension, je dirais, messianique qui la dirige dans l'histoire vers toujours autre chose. Je dirais volontiers que l'Europe, fondamentalement, a soif d'altérité. Et comme elle ne trouve pas cette altérité en elle-même, dans son identité, elle cherche toujours son altérité ailleurs, si je puis dire, c'est-à-dire chez les autres, d'où la découverte des autres civilisations, des autres cultures, comme on le voit avec l'invention de l'anthropologie ou l'invention de l'ethnologie, de Montaigne, précurseur de l'ethnologie, à Claude Lévi-Strauss, qui cite d'ailleurs souvent Montaigne.
Mais est-ce que cette ouverture dont vous parlez, donc cette soif d'altérité qui définirait l'Europe, est une soif de compréhension ou une soif d'asservissement? Parce que les critiques que l'on formule à l'encontre de l'Europe, c'est justement un souci de domination pour devenir, comme maître et possesseur, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, du reste du monde.
Comme Descartes le voulait dans la partie du discours de la méthode. Je crois qu'il y a les deux, malheureusement. De la même manière que pour Ésope, la langue était la meilleure et la pire des choses, on pourrait dire que la raison, c'est-à-dire le logos, puisque la langue dont je viens de parler se dit en grec aussi logos, est la meilleure et la pire des choses, c'est-à-dire que l'ouverture de la rationalité peut apporter des fruits ou peut entraîner des catastrophes. Je crois que fondamentalement, l'idée directrice de l'Europe, c'est quand même de s'ouvrir à tout ce qui n'est pas elle pour des raisons de compréhension. C'est ce que j'avais montré dans le précédent ouvrage, Le regard vide, lorsque j'avais insisté sur la notion de regard, qui se dit en grec « theoria », qui fait que la pensée européenne, et donc occidentale par contre-coup, est essentiellement une pensée théorique. Ça ne veut pas dire simplement abstraite, mathématique, scientifique, etc. Cela signifie fondamentalement que le regard que l'Europe porte, l'Europe, j'entends par l'Europe, les scientifiques, les poètes, les musiciens, les architectes, Brunelleschi quand il construit le dôme de la cathédrale de Florence, Michel-Ange quand il fait le plafond de la chapelle Sixtine sur la demande de Jules II, tous ces artistes, tous ces créateurs, tous ces penseurs, tous ces théologiens, tous ces bons Européens, comme disait Nietzsche, ont essentiellement pour but de jeter un regard sur le monde, un regard décapant, un regard critique et en même temps un regard universel, essentiellement pour le comprendre. Je crois que le regard philosophique, disons le mot, que l'Européen a toujours jeté sur le monde est un regard de compréhension, mais en même temps, d'une certaine manière, de maîtrise, c'est ce que vous disiez en citant Descartes, et en même temps d'asservissement, car il n'est pas possible de, comme préindéré, de prendre avec soi sans, d'une certaine manière, se laisser aller à une domination. On le voit très bien dans le terme qui définit le mieux la pensée européenne, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hegel, excusez du peu et de la référence, lorsque Hegel fait remarquer que le concept est toujours violent, il y a une violence du concept. Conceptum, comme capere, en latin, ça signifie prendre avec soi, c'est-à-dire à raisonner, comme dira Heidegger dans une autre perspective, c'est-à-dire prendre la réalité et la porter en soi-même pour essayer de la maîtriser intellectuellement et de la modifier pratiquement. Et c'est en ce sens que Descartes n'avait pas tort de dire que par la mathésis universalis, c'est-à-dire par la pensée universelle, par le recours à l'universel qui est pour lui évidemment est d'ordre mathématique, l'homme se rendra maître et possesseur de la nature. Alors d'une certaine manière, la culture européenne s'est mise en situation d'être maîtresse et possesseur de la nature et aussi des autres cultures qu'elle a étudiées, qu'elle a formées et qu'elle a éventuellement asservies dans les différentes colonisations.
Donc on est là dans une forme de dialectique, si j'entends bien, entre le comprendre l'autre, donc le rapport à l'altérité d'une part, et puis le prendre pour soi.
Et le prendre pour soi.
Qui effectivement est un peu les deux ambiguïtés ou les deux termes de l'Europe. Et ce qui vous fait dire, c'est pour ça que je voudrais que vous m'expliquiez un peu mieux cette dialectique-là, vous dites, contrairement à ce qu'on entend un peu partout, que l'Europe est ethno-décentrée.
Ce n'est même pas original ce que je dis ici, de dire que l'Europe est ethno-décentrée. Vous avez la même remarque chez Lévi-Strauss ou chez tous les anthropologues. C'est-à-dire que comment se fait-il que des gens qui sont des philosophes comme Claude Lévi-Strauss, qui était agrégé de philosophie, vont chez les Nambikwara ou chez d'autres civilisations primitives, en s'éloignant, si je puis dire, de la Sorbonne et du quartier latin, en s'éloignant de leurs racines intellectuelles et culturelles, de leurs habitudes mentales, de leurs habitudes conceptuelles, pour essayer d'étudier les structures élémentaires de la parenté chez des sociétés qui ne les concernent pas fondamentalement. Donc il y a bien fondamentalement dans tout regard théorique porté sur le monde et donc sur les autres cultures, un ethno-décentrisme, et non pas du tout, comme on le répète à foison, un ethnocentrisme qui fait que le regard de l'Europe reviendrait toujours sur elle-même. D'une certaine manière, oui, il y a du narcissisme dans la pensée européenne, comme sans doute dans toutes les cultures, mais surtout dans les autres cultures. Quand vous lisez Le regard éloigné du même Claude Lévi-Strauss, auquel je fais allusion surtout dans l'ouvrage précédent Le regard vide, justement en jouant sur la dialectique du regard et de la duplicité ou de la dualité du regard, je fais remarquer que pour Claude Lévi-Strauss lui-même, il y a une ambiguïté, il y a une équivoque, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le regard de l'anthropologue, et il prend l'exemple de Jean de Léry, qui est sa grande inspiration, est un regard qui se fond dans la culture qu'il étudie, qui essaye de s'altérer au maximum pour devenir la pensée du Nambikwara ou du primitif, mais en même temps c'est un regard qui revient sur lui-même, ne serait-ce que épistémologiquement pour se critiquer lui-même et pour envisager les fondements de son propre regard, mais aussi pour se critiquer substantiellement, philosophiquement et pas simplement épistémologiquement. Lorsque Jean Delery revient chez lui ou lorsque Lévi-Strauss revient à Paris quelques siècles plus tard, pour développer ses thèses, car enfin les anthropologues ou les explorateurs n'ont jamais écrit ou ratiociné sur place. Ils étudiaient sur place, mais ils écrivaient en rentrant, si je puis dire, à la maison, c'est-à-dire en rentrant chez soi, en revenant à soi. Le retour à soi, c'est-à-dire le retour spéculatif de la pensée rationnelle, est un regard qui, certes, a porté sur autrui, mais qui, en revenant sur lui-même, essaye d'intégrer les connaissances qu'il a tirées d'autrui pour enrichir non pas son égoïsme ou son narcissisme, mais pour enrichir la part d'universel que chacun porte en nous. La grande découverte de l'Europe, qu'on le veuille ou pas, c'est d'avoir montré qu'il existe une part d'universel, de logique, comme disaient déjà les stoïciens, de rationalité, dans toutes les perspectives culturelles qui ont été diversement développées sur Terre, mais qui ont été découvertes essentiellement par la pensée européenne.
Alors justement, venons-en à ce deuxième thème, me semble-t-il, qui traverse votre livre, qui est celui de l'universalité. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, regarder les autres, ce que nous avons dit juste avant, et donc essayer de comprendre comment les autres vivent, existent, ce qu'ils peuvent apporter. Et deuxième chose, il y a l'idée suivant laquelle qui est premier ou qui est au-dessus des autres ou qui permet de comprendre les autres. On peut peut-être penser que la culture européenne s'est considérée comme étant primus inter pares, première parmi toutes les autres. Et vous dites dans votre livre qu'il y a un universel européen et que cette Europe a inventé, dites-vous, une métaculture qui permet de comprendre les autres cultures. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture européenne et la culture des cultures, ou est-ce qu'elle est la clé de compréhension des autres cultures, sans lesquelles les autres cultures ne peuvent pas se comprendre, et ce qui donnerait, à ce moment-là, toute la force à cette culture européenne pensée et vécue comme matrice d'universalité.
On peut se répondre sur deux plans. Sur un plan historique et objectif, c'est-à-dire sur le plan des faits, car, comme disait l'autre, les faits, d'une certaine manière, sont têtus, on ne peut nier que depuis à peu près 4 ou 5 siècles, c'est d'ailleurs le titre de mon premier chapitre sur les inventions européennes, toutes les inventions qui ont été faites dans le monde, sans aucune exception, je me permets d'y insister, sont des inventions de type européen, ou dans le prolongement occidental de l'Amérique, ou de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que toutes les inventions d'ordre théorique, en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, de Copernic jusqu'à Darwin, toutes les inventions technologiques, depuis l'invention de la brouette jusqu'à l'invention de la fusée, en passant par l'invention des chemins de fer, de la voiture automobile, etc., ont été faites par les Européens ou par les Occidentaux, non seulement sur le plan strictement technique de la chose, mais sur le plan des axiomes et des fondements épistémologiques, et donc théoriques, et donc scientifiques, qui les permettaient. Jamais on n'aurait construit un avion, c'est-à-dire un objet plus lourd que l'air et qui essaye d'imiter l'avion, l'oiseau, Avis, si l'on n'avait pas eu des connaissances physiques telles que la possibilité pour cet avion, en ayant acquis une certaine vitesse et donc une certaine énergie, de décoller et de voler correctement en l'air, précisément comme un oiseau.
Alors je fais une petite parenthèse pour lire, donc c'est à partir de la page 20, donc toutes les inventions européennes. La lunette astronomique, le thermomètre, le baromètre, la machine à calculer, le journal, la machine à vapeur, la transfusion sanguine, le paratonnerre, le métier à filer, le sous-marin, la turbine à gaz, la dynamite, etc. etc.
Voilà. Donc vous... Oui, ça fait un peu un inventaire à la
Prévert. Non, mais qui permet de remettre un peu effectivement
mais
les choses.
Mais je me suis amusé de prendre tous les ouvrages qui traitent de la question de l'évolution des sociétés techniques et scientifiques depuis quasiment le Moyen-Âge, et toutes sans la moindre exception. On peut consulter que ce soit sur Internet ou que ce soit dans des ouvrages spécialisés, on s'aperçoit que toutes les inventions ont été de type européen et par la suite, depuis la fin du XIXe siècle avec Edison aux États-Unis, etc., de type américain, c'est-à-dire de type occidental pour simplifier, c'est-à-dire de type rationnel. C'est-à-dire que la raison, déjà sur le plan des seuls faits, a montré, selon un mot célèbre, qu'elle finira par avoir raison. C'est-à-dire que la raison aura raison, c'est-à-dire possédera sa propre rationalité et sa propre pratique.
Alors la raison finira par avoir raison, donc c'est une réponse que fait D'Alembert à Voltaire.
C'est une réponse que D'Alembert fait à Voltaire, effectivement, pour montrer, en faisant le jeu de mots sur avoir raison, qui en français signifie à la fois posséder la raison, donc l'universel, et en même temps gagner, car quand j'ai raison, je l'emporte sur mon adversaire qui a moins d'arguments que moi ou qui a de mauvais arguments. Il se trouve que la raison, telle que la sculptée, en quelque sorte, telle que la taillée dans le marbre de l'expérience, l'Europe puis l'Occident, l'a emportée sur toutes les autres formes de pensée, c'est-à-dire qu'elle est plus opératoire. Alors, on peut se demander si cette opérabilité est suffisante pour affirmer que la culture occidentale, d'une part, posséderait l'universel et d'autre part, serait supérieure aux autres. Je ne joue pas sur le domaine de la supériorité, car tout dépend de ce que l'on entend par supériorité. On voit très bien que l'équipe de football de l'Espagne est supérieure aux autres quand elle gagne, et avec quel agrément et quelle maîtrise du ballon sur le terrain. Je ne pense même pas que les cultures se soient affrontées sur un terrain, disons sur le terrain de l'histoire. Il se trouve que le modèle occidental, c'est-à-dire le modèle rationnel défini par l'Occident pour la première fois, s'est imposé de lui-même à l'ensemble de la planète, puisqu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs du mot français de mondialisation, le monde entier, le mundus entier, est asservi à la rationalité de type occidental ou à la transmission des informations ou à la transmission de l'enseignement de type occidental. Je rappelle dans différents ouvrages, et dans le dernier en particulier, que c'est tout de même l'Europe, à partir des Grecs, qui a inventé l'école. Et donc, dans le prolongement de l'école qui a inventé l'université, les centres de recherche, la diffusion du savoir, les journaux, les revues, les livres, les bibliothèques, bref, tous les lieux institutionnels où, d'une part, le savoir est conservé, au sens d'un conservatoire des arts et métiers ou d'un conservatoire de musique. Là, il s'agit d'un conservatoire de la culture et de la science. Et au-delà de ce conservatoire ne se contente pas de revenir sur lui-même de façon narcissique, là encore, il crée des recherches, et il continue, plus ultra, à aller toujours plus loin. Et c'est là que la devise que vous citiez tout à l'heure de Charles Quint, l'empereur européen, est justifiée. Charles Quint qui a donné d'ailleurs cette devise à l'Espagne, puisque encore aujourd'hui la devise de l'Espagne c'est plus ultra, en latin, signifie que le regard européen, le regard rationnel, ne peut pas s'empêcher de porter les yeux plus loin. Il veut toujours aller au-delà dans l'investigation intelligente, dans l'investigation intelligible du réel, avec ce que cela peut entraîner de danger, c'est-à-dire de destruction de ce même réel qui, quand il est soumis à cette analyse théorique, est parfois maltraité, pour ne pas dire détruit. D'une certaine manière, on le voit très bien dans les textes anthropologiques comme les Immémoriaux de Victor Segalen, quand vous enseignez à un Polynésien en lui donnant le nom de Jacob, Jacoba, c'est-à-dire un nom juif, et transporté donc par la culture occidentale, vous détruisez en lui, évidemment, sa culture en tant que telle. Oui. Moi-même, j'ai enseigné plusieurs années à Tahiti dans le cadre de l'Université française du Pacifique. J'ai eu des étudiants qui étaient d'origine maori, qui étaient évidemment tous mélangés, ce qu'on appelle là-bas des demi. Mais il est évident que leur culture est totalement occidentale de part en part, et pas simplement dans la mode, dans le vêtement, dans la musique, dans les goûts personnels, dans les films qu'ils voient, etc. Et c'est-à-dire qu'ils ont abdiqué, ou qu'ils ont oublié, ou qu'ils ont complètement occulté la culture de leurs ancêtres. Alors vous aurez évidemment, si vous allez à Tahiti, à Papeete ou à Moorea, des danses polynésiennes, mais c'est essentiellement sous forme d'une représentation moderne qui est donnée pour les touristes.
Alors, ce que vous disiez dans Le Regard Vide et que vous reprenez évidemment dans ce livre-là, c'est que avant de constater les réalisations pratiques, il y a une posture intellectuelle, un regard, une façon de se poser face au monde. Et donc, vous analysez trois manières qu'a l'Europe de conjuguer son universalité. Un, dans la compréhension du monde, ça donne à la science et le désir donc d'améliorer le monde tel qu'il est. Deux, le désir de comprendre la vie commune. Donc la politique, les règles communes, la politesse, etc. Et trois, comprendre l'homme, l'âme, et on est là dans le domaine de la philosophie. Alors est-ce que ce triple souci de compréhension, ce triple souci de l'âme, comme dit Patochka, est vraiment ce qui définit au centre du centre la spécificité de l'universalité européenne?
Vous faites bien de citer Patochka, car je me suis beaucoup inspiré de Patochka, comme d'autres d'ailleurs, aucune originalité de ma part sur ce plan. Mais je crois que Patochka, disciple de Husserl, comme chacun sait, a mis le doigt sur un élément essentiel de la pensée européenne et de la théorisation européenne qui remonte bien au-delà de Patochka à Platon lui-même, puisque c'est Platon qui, le premier, dans plusieurs textes, dans l'un en particulier qui s'appelle l'Alcibiade, dit que le but de la philosophie, c'est de comprendre ce que l'on est à travers ce qu'il appelle en grec « epimeleia tes psukes », c'est-à-dire le souci de l'âme. Alors ça a été traduit par les traducteurs, soit par le souci, soit par le soin de l'âme. Et je crois que fondamentalement, l'Europe a eu ce souci ou ce soin de l'âme dans les trois dimensions que vous venez de citer. Le soin de l'âme ou le souci de l'âme dans la découverte théorique du réel, ce que l'on appelle la connaissance ou la connaissance scientifique. Le souci de l'âme dans l'action pratique, dans la praxis, c'est-à-dire dans la vie collective, dans ce que Hannah Arendt appellera l'espace public. Et le souci de l'âme dans son rapport à soi, dans son intimité, qui développe ce que vous appeliez la philosophie, que j'appellerais peut-être plus directement au sens d'un Lévinas, l'éthique. C'est-à-dire que l'Europe a toujours uni ces trois dimensions, la dimension scientifique, la dimension politique et la dimension éthique, dans un même souci conjugué triplement, comme vous l'avez remarqué très justement, conjugué théoriquement dans le souci scientifique, conjugué pratiquement dans le souci politique, conjugué théoriquement et pratiquement dans le souci éthique, où, vous voyez Kant, on a besoin de comprendre théoriquement ce que c'est que l'âme pour en assurer la dignité éthique en tant que telle. Mais je reviens, si vous le permettez, sur ce que vous disiez tout à l'heure en ce qui concerne l'Europe et sa tentative de maîtriser les autres personnes. On s'en aperçoit avec le concept central en Europe, qui lui est tellement reproché aujourd'hui, alors que, pour ma part, et alors là je me présente comme très provocant, mais ce n'est pas moi qui suis provocant, si je puis dire, c'est la chose elle-même qui nous provoque à la réflexion. C'est-à-dire que ce que l'on reproche à l'Europe d'avoir été colonialisme, je pense que c'est la plus grande qualité de l'Europe, au contraire. On oublie une chose, c'est que colonie, en français comme dans toutes les langues, vient d'un mot latin qui vient d'un verbe colere qui signifie précisément soigner, puisque nous parlons du soin de l'âme, c'est ce qui m'y fait penser. Or, le terme de colonie en latin, colonia, a la même étymologie que le terme de cultura. Vous vous souvenez que le terme de cultura a été créé par Cicéron dans les Tusculanes lorsque Cicéron dit philosophia cultura animi est, c'est-à-dire que la philosophie est la culture de l'âme ou la culture de l'âme est la philosophie. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que ce qui est fondamentalement culture, et nous parlons ici de la culture européenne, c'est un rapport à soi, de travail de soi sur soi, de maîtrise de soi sur soi, d'approfondissement de soi en soi, de telle manière que cela porte des fruits. De la même manière, dit Cicéron, que l'agricultura, l'agriculture donc, et le travail de la terre, ager, pour en produire des fruits qui vont nous nourrir, la cultura tout court, ou la cultura animi, et non plus la culture de l'ager, c'est-à-dire du terrain ensemencé, a pour but essentiellement de fournir des fruits. Et les fruits de la culture, que ce soit la science, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit l'architecture, la littérature, la poésie, la philosophie, tout ce que vous voulez, les fruits de la culture viennent précisément de cette colonisation de l'âme qui fait que colonisation et culturisation, si vous me permettez le pléonasme, sont la même chose d'une certaine manière. Alors qu'il y ait eu des déviations de la colonisation, une colonisation négative et même néfaste, j'en parle très longuement dans mon ouvrage, mais que l'on refuse les côtés positifs de la colonisation, c'est-à-dire les côtés positifs de la culture, puisque c'est la même chose, ne serait-ce que l'instauration en Afrique ou ailleurs d'écoles, de dispensaires, d'hôpitaux, de routes, d'universités. Enfin, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été créée essentiellement par les Européens sur un modèle européen. L'Europe a apporté cette colonisation de la pensée, qui est en même temps une culture de la pensée.
Alors nous allons marquer une petite page musicale et nous reprenons juste après. Nous reprenons notre entretien avec Jean-François Amati autour de son livre, donc Le procès de l'Europe, grandeur et misère de la culture européenne. Dans une première partie, nous avons vu quels étaient les principes, si l'on veut, de l'Europe et de la culture européenne. Donc, nous avons insisté au début sur la question de l'ouverture, d'une culture par définition ouverte à l'altérité et aux autres. Et deuxièmement, donc, nous avons examiné ce que vous dites dans votre livre de l'universalité et donc de ce que la culture européenne regarde et donc permet de stabiliser ou d'indiquer ou de travailler. Et donc, vous aviez abordé à la fin de notre première partie la question de la colonisation, donc ce qui me permettra effectivement de rebondir sur un chapitre important de votre ouvrage, le chapitre 4, qui s'appelle « La colonisation et l'histoire », où vous commencez par le discours de Dakar, donc, qui a fait tant de bruit, de Nicolas Sarkozy, considérant que le drame de l'Afrique, je cite Nicolas Sarkozy, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Voilà. Et donc, vous essayez, dans ce chapitre-là, de reprendre cette question de l'histoire et de l'Afrique, mais vous abordez aussi l'Algérie, que vous connaissez bien, pour montrer qu'effectivement, cette question de l'entrée ou de la sortie de l'histoire se pose et que, donc, pour le résumer, vous me reprenez si je me trompe, vous donnez raison, d'une certaine façon, à Nicolas Sarkozy dans ce propos-là sur l'Afrique sortie de l'histoire.
Oui, à Nicolas Sarkozy ou à Henri Guénaud qui avait rédigé le texte dont il ne s'est pas caché.
Partons du principe que celui qui le dit
évidemment,
est celui...
Évidemment, et en est l'auteur.
Voilà.
Il ne s'agit pas pour moi de défendre politiquement
intellectuellement
Nicolas Sarkozy, mais de me demander simplement si, d'une part, la phrase était justifiée et si, d'autre part, les critiques de cette phrase étaient elles aussi justifiées. Il va de soi que, quand vous lisez le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, qui est un discours long, important, très développé, très structuré, vous apercevez que c'est la seule phrase qui a fait problème. Au contraire, le reste du discours de Dakar est un éloge presque dithyrambique de la culture africaine, du développement intellectuel, politique et économique de l'Afrique vers la démocratie, toujours, remarquez-le, à partir de normes européennes. Car, que je sache, il n'y a jamais eu dans l'histoire africaine de démocratie africaine. La démocratie n'est pas une notion que l'on trouvait chez les peuples africains, ni le mot, ni la chose n'y était. Mais la question s'est posée de savoir, est-ce que l'homme africain est entré tôt ou tard dans l'histoire ?
Alors, je fais une petite parenthèse, mais vous citez donc effectivement, parce qu'on ne connaît de ce discours que cette phrase-là, enfin, voilà, mais vous citez effectivement des passages de ce même discours où il condamne, très clairement et sans ambiguïté particulière,
la colonisation.
La colonisation, voilà.
Tout à fait.
Voilà.
J'ai même été surpris, quand j'ai lu l'entièreté du discours, de voir que l'on avait tiré cette phrase et cette seule phrase d'un propos qui était une condamnation quasiment sans réserve de la colonisation, presque une condamnation excessive de la colonisation. J'attendais que l'on mette quelques bémols à cette critique de la colonisation. Or, il n'y a que cette phrase qui a entraîné des remarques acerbes des uns et des autres, en particulier de Mme Ségolène Royal, qui, il est vrai, est née à Dakar et qui a cru bon de faire à Dakar même une sorte de contre-enquête sur le discours de Sarkozy. Mais la question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'histoire. Or, que l'on sache, tous les théoriciens européens, depuis le père de l'histoire, depuis Hérodote, ont entendu par histoire non plus un développement cyclique et régulier sur le mode des saisons de type religieux qui emporte les sociétés dans un retour perpétuel sur elles-mêmes et qui fait qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, pour reprendre le proverbe latin. L'idée européenne fondamentale du temps qui passe et donc de la condition humaine, c'est une idée messianique qui vient de la pensée juive et qui a été surtout reprise par les chrétiens, en particulier par saint Augustin, et évidemment par tous les autres pères latins et grecs de l'Église, selon laquelle l'être humain se développe dans une temporalité qui est de type linéaire, qui avance toujours vers un but atteignable ou inatteignable. Sous l'angle religieux, ce but est atteignable, ça sera la fin des temps, l'avènement du Messie et fondamentalement le jugement dernier. Cette idée d'un temps linéaire, Chantal Delsol l'a bien montré dans ses derniers ouvrages, cette idée d'un temps linéaire...
Ce qu'elle appelle le temps fléché.
Le temps fléché, c'est ce que Chantal Delsol appelle le temps fléché, exactement. Dirigé donc vers un avenir radicalement nouveau, c'est une idée qui a apporté, lorsqu'elle s'est, autour du XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, lorsqu'elle s'est laïcisée, a apporté l'idée de progrès, de progressus, c'est-à-dire d'avancer, sans revenir sur ses pas. Or, lorsque l'on étudie les autres civilisations en dehors de la civilisation européenne puis occidentale, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas eu l'idée d'une histoire linéaire, d'une histoire fléchée, qui est en quelque sorte une conquête de la rationalité. On citait tout à l'heure la phrase « la raison finira par avoir raison ». Cette idée selon laquelle la rationalité est une conquête qui va toujours plus ultra, plus outre, pour parler comme Charles Quint, c'est une idée qui n'avait été partagée, à ma connaissance, et on peut lire tous les anthropologues que l'on voudra, on ne retrouvera pas cette idée chez les autres, et en particulier on ne retrouvera pas cette idée en Afrique. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que lorsque les élites africaines instruites par les instituteurs ou par les professeurs européens ou occidentaux se sont mis à développer des écoles, à aller à l'école, à amener leurs enfants à l'école ou à créer a fortiori des universités. L'Afrique noire est aujourd'hui parsemée d'universités. Elles n'ont fait que reprendre les idées ou les idéaux ou les idéologies européennes, y compris l'idéologie anti-européenne ou critique de l'Europe, à savoir le marxisme. La plupart des grandes élites africaines dans les années 20 à 40, comme parfois d'ailleurs des élites musulmanes, en particulier en Égypte dans les années 20, se sont mises à l'école de l'Europe ou de l'Occident en reprenant les idées les plus critiques de l'Europe à l'égard d'elle-même, c'est-à-dire l'idée marxiste ou l'idée révolutionnaire en tant que telle, qui depuis d'ailleurs ont fait leur temps, car on ne trouvera plus aujourd'hui de grands intellectuels africains ou autres qui soient encore marxistes. Le marxisme n'a plus fait florès, si je puis dire. Mais on ne peut nier le fait que lorsque les colons européens sont arrivés au XIXe siècle ou dès la fin du XVIIIe siècle en Afrique, Lorsque Stanley a découvert Livingstone, si vous voulez, l'Afrique n'avait pas d'école, l'Afrique ne connaissait pas l'écriture, l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Si l'on entend par histoire l'histoire de l'écriture comme on nous l'a enseignée, alors on peut évidemment nier qu'il y ait une histoire du monde, au sens hegelien du terme, mais aussi au sens marxiste du terme. Mais à ce moment-là, quels seront nos outils intellectuels ou conceptuels pour comprendre le monde tel qu'il passe ? Est-ce que l'on va revenir à une reproduction circulaire et cyclique qui a été la reproduction de toutes les sociétés, sauf la société européenne ?
Donc vous dites que si effectivement on considère, un, que nous passons d'une société orale à une société de l'écrit, deux, que nous passons d'un temps cyclique à un temps orienté, trois, que nous quittons une compréhension, disons magique, comme dit l'autre,
ou animiste,
à une compréhension rationnelle, à ce moment-là, ce passage, dans les trois domaines en question, suppose donc d'entrer dans l'histoire, et donc, effectivement, avec l'arrivée ou la colonisation, enfin l'arrivée des Blancs ou la colonisation, l'Afrique est bien rentrée dans l'histoire telle que définie.
Et non seulement elle y est entrée, mais si je puis dire, elle s'y situe extrêmement bien, comme d'ailleurs les autres sociétés non européennes ou non occidentales qui se sont mises à l'école de cet universel découvert par l'Europe, mais qui n'appartient pas en tant que tel à l'Europe, car comment est-ce que l'universel pourrait appartenir à une société particulière ? Ça n'a évidemment aucun sens. La grandeur de l'Europe, si grandeur il y a, c'est d'avoir pensé que l'universel existait, ce qui est un axiome ontologique, si je puis dire, un postulat ontologique, et que cet universel était présent partout, non seulement partout dans le monde, dans les galaxies les plus éloignées, voire les mathématiques appliquées à l'astronomie, mais qu'il était présent partout, chez les êtres humains aussi, présent partout entre les hommes et les femmes, entre les noirs et les blancs, entre les jeunes et les vieux, entre les malades et les hommes sains. C'est-à-dire que l'Europe a découvert un universel qui ne lui appartenait pas. Mais le paradoxe qu'on lui reproche, c'est que c'est bien elle qui l'a découvert. Mais cela, on ne peut pas le nier, puisque historiquement, toutes les grandes découvertes de l'universel, que ce soit l'universel scientifique, théorique ou pratique, ont été des découvertes de type européen ou tardivement, 19e, 20e siècle, de type occidental.
Alors, dans l'équilibre que vous instaurez, vous n'êtes pas, donc dites-vous, avocat de la défense, mais plutôt juge, donc dans l'équilibre des choses.
J'essaie d'envisager effectivement les différents domaines.
Voilà. Alors donc, vous indiquez clairement, et ça n'apparaît pas toujours dans le discours ambiant à l'égard de l'Europe, qu'il y a deux Europes, deux discours sur l'Europe. Il y a, d'une part, depuis quelques décennies, une critique de l'Europe qui est faite du côté de l'Europe de l'Ouest, et aux États-Unis aussi, et puis une compréhension de l'Europe qui est faite du côté de l'Est de l'Europe. Donc à l'Ouest, critique donc des mâles blancs européens, développement des cultural studies, et à l'Est, vous citez un certain nombre d'auteurs, qui sont quand même des auteurs importants et peut-être un peu méconnus, Patochka, Miloš, Kolakowski, Kossy, Ksenitsyn, voilà, tous ces auteurs-là se sont étonnés de la critique faite à l'ouest de l'Europe, d'une part, et ont investi ou ont repris à leur compte ce regard, cet apport de l'Europe. Donc est-ce que vous êtes du côté de l'Europe de l'Est, si on veut, ou des philosophes de l'Europe de l'Est contre tous ceux qui ont voulu, d'une certaine façon, ou qui ont peut-être réussi
à
chanter le requiem de l'Europe ?
Tout à fait. Je suis parti d'un constat tout à fait étonnant, c'est que lorsqu'on lit les grands auteurs européens ou post-européens, comme les Américains du Nord, comme les Américains du Sud, c'est-à-dire en Argentine, au Brésil, pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ou jusqu'aux années 50, où la coupure a eu lieu, me semble-t-il, vous apercevez que tous ces grands auteurs, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, que ce soit Gide ou que ce soit Valéry, ou d'autres auteurs, n'ont que des louanges adressées à l'Europe, en particulier Valéry dans Regard sur le monde actuel ou dans d'autres textes qui sont consacrés explicitement à l'Europe. Si vous remontez évidemment au XIXe siècle avec Victor Hugo et d'autres auteurs, là c'est un étalage d'une complaisance pour l'Europe qui est tout à fait étonnant. Victor Hugo voit dans l'Europe la lumière qui guide le monde, etc. Enfin, il y a tous les excès rhétoriques et poétiques de Hugo, qui est pourtant un homme de gauche à l'époque et même d'extrême-gauche, pense qu'il faut faire précisément les États-Unis d'Europe, l'expression est de Victor Hugo lui-même, justement pour permettre à tous les autres peuples de suivre cette lumière qui est venue de l'Europe, puis de l'Europe de France et de France de Paris, pour tout dire.
Et qu'il faut aussi coloniser les pays d'Afrique.
Et qu'il faut coloniser donc les pays d'Afrique. Non seulement Victor Hugo le dit, mais Jules Ferry le dit, et toute la pensée de gauche, sauf peut-être l'extrême-gauche de l'époque, le croit, puisqu'il faut porter les lumières de la raison, de la démocratie partout. Et de la République partout. Donc c'est une idée qui est davantage une idée généreuse de gauche qu'une idée étroite de droite, pour autant qu'on puisse distinguer la droite de la gauche aujourd'hui comme hier, c'est-à-dire au XIXe siècle. Mais quand vous lisez la plupart des auteurs européens ou américains, j'entends américains, canadiens, parfois argentins, brésiliens, etc., depuis la Deuxième Guerre mondiale, il est vrai qu'il y a eu la coupure de la Deuxième Guerre mondiale, la découverte de la Shoah et l'ébranlement de grands intellectuels de l'époque qui se sont rendus compte que l'Europe avait créé deux guerres mondiales coup sur coup, plus la Shoah pour détruire le peuple juif, on s'aperçoit que l'Europe fait l'objet des critiques aussi violentes que les éloges étaient grandissimes auparavant. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement total des intellectuels européens qui ne voulaient plus assumer en quelque sorte leur héritage. Car il ne s'agissait pas simplement de critiquer les excès de l'Europe, mais de mettre en question les fondements épistémologiques, éthiques, philosophiques et politiques de l'Europe, ce que Jacques Derrida appelait l'européocentrisme, qui l'identifie au logocentrisme. Et le logocentrisme, si je traduis bien, ça signifie la centralisation de l'Europe sur le logos, c'est-à-dire sur la raison. Donc ce qu'il met en cause, c'est la rationalité universelle de l'Europe, et d'ailleurs, comme tous les déconstructeurs, Derrida, allant beaucoup plus loin que Heidegger sur ce plan, qui voulait déconstruire l'ontologie pour essayer de revenir à quelque chose de plus essentiel, lui veut déconstruire toute l'ontologie européenne ou toute la logologie européenne, non pas pour revenir à quelque chose d'essentiel, mais pour dissoudre toute possibilité d'assurer une maîtrise ou une mainmise de la pensée rationnelle sur le monde, et donc sur les autres peuples. Or, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'à l'Europe de l'Est, précisément parce que les Européens de l'Est avaient été asservis pendant des dizaines d'années, des intellectuels comme Patochka, comme Kozik, comme Miloš, comme Solženicyn, mais aussi comme Kundera. Il suffit de lire les Testaments trahis de Kundera, ou même l'art du roman du même Kundera, pour s'apercevoir qu'il y aurait des dizaines d'autres ou des centaines d'autres grands intellectuels européens pour montrer que l'Europe de l'Est a conservé cette idée d'un héritage éthique, politique et culturel essentiel, d'autant plus essentiel qu'il est universel, à protéger, à diffuser et à enrichir, là où beaucoup d'intellectuels européens de l'Ouest cette fois-ci, ou même plus à l'Ouest encore, dans le Far West, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique et au Canada, sont allés jusqu'à nier qu'il y ait un héritage européen ou qui ont cherché à le dissoudre ou à le déconstruire totalement.
Et donc je renvoie pour ceux que ça intéresse, effectivement, à ce continent un peu oublié de l'Europe de l'Est et des philosophes, un petit livre que vous recommandez aussi, j'imagine, d'Alexandra Lavastine qui s'appelle « Esprit d'Europe », donc qui est paru en poche, où elle reprend effectivement un certain nombre de ses grands auteurs. Nous allons arrêter là donc et faire une petite page musicale et nous reprenons donc pour notre troisième partie. Nous reprenons notre entretien avec Jean-François Mattei autour de son livre « Le procès de l'Europe, grandeur et misère de la culture européenne », donc où il essaye de remettre en valeur et en évidence à la fois l'universalité et à la fois l'apport que la culture européenne, comme matrice des autres cultures, a pu apporter. Alors, je voudrais terminer dans cette troisième partie sur, disons d'une certaine façon, le jugement que vous portez à l'égard de cette postmodernité européenne qui, dites-vous, n'a pas compris, je vous cite, page 194, « Le fond de la critique contre l'Europe vient d'une incompréhension du miracle européen ». Et ma question est la suivante, parce que vous citez juste après donc un texte de Nietzsche sur l'homme du ressentiment, et de savoir si, d'une certaine façon, les anti-européens, les déconstructeurs de l'Europe, ceux qui laissent à supposer que l'Europe n'a plus d'identité et ne doit plus avoir aucune fierté à l'égard d'elle-même, si ces anti-européens ne sont pas victimes d'un excès de ressentiment nietzschien.
Je dirais volontiers que le ressentiment est une perversion de l'indignation. On a beaucoup parlé d'indignation ces derniers mois à partir de l'ouvrage de Stéphane Hessel. Je me permets de rappeler que j'avais écrit moi-même un ouvrage il y a quelques années qui s'appelle « De l'indignation ».
Et qui est paru donc à la table ronde en 2005.
Voilà. En 2005, où j'avais étudié toutes les formes d'indignation possibles et tous les philosophes ou psychologues qui ont étudié l'indignation et qui ont essayé de la définir. Depuis Descartes, qui a de belles pages sur l'indignation, jusqu'à Adam Smith, qui fonde toute sa théorie des sentiments moraux sur le personnage qu'il appelle le spectateur impartial, spectateur de ce qui se passe dans la vie, et dont il nous montre que le sentiment qui anime le spectateur impartial, c'est justement un sentiment d'indignation. Le sentiment d'indignation, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment qui, immédiatement ressenti par celui qui est le témoin d'un crime ou d'une atteinte à la dignité d'une victime, prend parti pour cette victime sans pouvoir intervenir. C'est-à-dire que l'homme indigné, comme l'homme révolté dont parlait Camus dans l'ouvrage qui porte ce nom, l'homme indigné est toujours en position de témoin. Quand vous êtes en position d'acteur, vous n'êtes jamais indigné, vous êtes en colère, ce qui est tout à fait différent. Lorsque l'on vous fait subir une brimade ou lorsque l'on vous attaque, vous pouvez répondre par la colère et donc par la violence, mais lorsque vous êtes le témoin d'une attaque ou d'une brimade qui est faite à autrui, vous êtes dans l'incapacité d'intervenir en tant que tel, puisque vous êtes un spectateur, comme dit justement Adam Smith, éloigné. Même image d'ailleurs chez Claude Lévi-Strauss dont on parlait tout à l'heure. Et le fait que je ne puisse pas agir pour défendre l'innocent qui est en but aux actions d'un criminel ou de quelqu'un qui lui en veut implique en moi un sentiment de révolte ou un sentiment d'indignation. Le terme d'indignation est excellent en français parce qu'il montre que ce qui est en cause, c'est la dignité de l'être humain. Je suis indigné quand la dignité humaine est accusé en quelque sorte. Et voilà pourquoi je suis en désaccord total avec l'ouvrage de Stéphane Hessel qui dit « Indignez-vous ». On ne peut pas donner comme ordre ou comme impératif à quelqu'un de s'indigner. L'indignation ne se commande pas, elle s'éprouve. C'est tout à fait différent. Or, je pense que l'indignation qui est un sentiment bon peut dégénérer en ressentiment ou peut dégénérer en amertume. C'est-à-dire que lorsqu'on s'aperçoit que le sentiment que l'on éprouve n'arrive pas à s'exprimer et n'arrive pas à changer les choses et à rétablir la dignité des hommes quand ils sont mis en cause, ces hommes, quand ces indignités continuent de se proliférer en quelque sorte, l'indignation tente à dégénérer en ressentiment en tant que tel. Et dans ce domaine du ressentiment, tout a été dit par Max Scheler ou par Friedrich Nietzsche, qui a bien montré, mais surtout chez Nietzsche, qu'il y avait une tendance dans la pensée européenne à se retourner contre elle-même dans un ressentiment contre ce qu'elle a été. Il y a même un texte de Nietzsche bien connu où Nietzsche dit qu'il y a dans la pensée européenne un ressentiment contre le temps et son « il y avait ». Il y a d'une certaine manière, dans la pensée européenne, un refus du temps par rapport toujours à l'espérance messianique d'un meilleur. Espérance messianique que vous retrouvez dans le marxisme et dans toutes les révolutions européennes, puisque c'est l'Europe aussi qui a inventé l'idée de révolution, donc, qui a inventé l'extrême-gauche, si vous voulez.
Donc ce qui veut dire que ce ressentiment, cette indignation qui dégénère en amertume et en ressentiment, explique, selon vous, pour partie ou pour grande partie, l'incompréhension d'une grande partie de la classe intellectuelle, depuis pas mal d'années, sur ce miracle européen.
Oui, j'ajouterais, avant de vous répondre sur le fond, que précisément le mot que vous avez utilisé de ressentiment est très justement utilisé en français, car c'est un sentiment redoublé, c'est un ressentiment. Alors que l'indignation est un sentiment spontané, naturel et, si je puis dire, unique, le ressentiment est un sentiment ou une émotion trouble. Qui est lié à de l'amertume, qui est lié à de la violence, qui est lié à une volonté de détruire, et de détruire précisément ce dont on parle et ce dont on part, à savoir la culture européenne. Autrement dit, le paradoxe de la culture européenne, c'est qu'elle a découvert la possibilité d'être critique à l'égard du réel, et donc à l'égard d'elle-même, puisqu'elle fait partie du réel. L'être humain fait partie de la réalité au même titre que la nature, au même titre que le monde qui nous entoure. Ce qu'a découvert la pensée européenne, on en parlait dans la première partie de notre entretien, c'est essentiellement le fait qu'elle jette un regard théorique sur le monde pour se l'approprier afin de mieux le comprendre. C'est l'intelligibilité de la théorie européenne. Mais en même temps, quand elle revient sur elle-même pour intégrer ses connaissances en elle-même et pour s'enrichir de ces mêmes connaissances ou de ses pratiques politiques, démocratiques, éthiques et bien d'autres, économiques ou autres, elle s'aperçoit que la réalité n'est jamais au niveau de son idéalité. Et ça, ça remonte au moins à Socrate et à Platon. À savoir que la réalité de la cité dans laquelle on vit n'est pas satisfaisante. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est moi qui me trompe sur cette réalité non satisfaisante, et donc je m'abuse sur moi-même, ou bien j'ai raison de façon critique, de façon rationnelle, en dénonçant des injustices, en dénonçant des indignités, et je ne peux les dénoncer qu'à partir d'un terrain, qu'à partir d'un socle, qu'à partir d'un fondement éthique et même ontologique, à savoir un fondement rationnel. Or, le paradoxe de la dénonciation des indignés actuels ou des révoltés actuels, c'est qu'ils dénoncent les acquis de la culture et même les fondements de la culture européenne en utilisant les concepts européens eux-mêmes, en utilisant les axiomes européens eux-mêmes. Autrement dit, pour dire les choses plus banalement, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, sans s'apercevoir qu'en critiquant les fondements axiomatiques, les postulats éthiques ou politiques ou démocratiques de la pensée européenne, ils détruisent avec la pensée européenne toute la construction universelle qui en découle, c'est-à-dire la culture qui est partagée aujourd'hui par tous les peuples.
Alors vous êtes, comme on l'a dit, philosophe, et donc vous jetez un regard assez critique à l'égard de votre corporation, enfin de tous ceux qui, d'une certaine façon, ont effectivement tenté de déconstruire, parce que c'est un peu l'élément sous-jacent à ce livre-là, c'est d'attaquer ou de remettre en cause ce primat de la déconstruction qui a été de plus en plus important. Et il me semble que vous opposez la sagesse grecque, chrétienne peut-être, la sagesse, donc je rappelle aussi que vous êtes spécialiste de philosophie grecque, la sagesse à ce monde post-moderne qui est devenu fou. Alors je vous cite, page 223, vous reprenez donc l'idée de Chesterton selon laquelle le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles, et vous ajoutez aussitôt, le monde post-moderne, donc pour le faire simple, qui prône la déconstruction de plus en plus importante, le monde post-moderne, donc dites-vous, est plein d'idées européennes devenues folles.
Je le crois volontiers, c'est-à-dire que c'est là la faiblesse de la pensée européenne et non pas sa force, c'est qu'elle n'a jamais réussi à mettre des garde-fous contre ses propres excès, y compris ses propres essais critiques. Vous rappeliez tout à l'heure que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Le sens de la démesure » aux éditions Sullivaire, dans lequel, en m'inspirant de beaucoup d'auteurs, dont Albert Camus, qui faisait remarquer à la fin de l'homme révolté que la démesure doit créer sa propre mesure, formule tout à fait étonnante de la part de Camus et tout à fait remarquable. Autrement dit, la mesure ne va pas venir de l'extérieur pour régler la démesure, c'est à la démesure elle-même de s'auto-maîtriser en quelque sorte pour créer sa propre mesure. Eh bien, je ne suis pas sûr que l'Europe, en particulier que l'Europe ou l'Occident post-moderne, c'est-à-dire de la deuxième moitié du XXe siècle et du siècle qui suit, ait réussi à créer sa propre mesure. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une démesure de la critique qui veut tout déconstruire dans le système intellectuel européen, c'est-à-dire déconstruction de la science, déconstruction de l'éthique, déconstruction du social, déconstruction du politique, déconstruction de l'économique, c'est-à-dire déconstruction non seulement de tous les édifices, et dans édifice il y a édifiant, qui prônaient une édification, c'est-à-dire une construction de la raison européenne, mais qui vont jusqu'à mettre en cause les principes mêmes de ces édifices, c'est-à-dire les fondements. Ce qu'il y a de grave aujourd'hui, dans ce que vous avez appelé justement la postmodernité critique, c'est qu'elle est allée au-delà de la critique, dans une sorte de métacritique qui ne s'aperçoit pas qu'elle se met elle-même en cause et que le serpent, d'une certaine manière, se mord la queue. La raison européenne, depuis les Grecs, depuis peut-être même les sophistes, avant même depuis Socrate, a toujours été critique. Critique à l'égard du réel et du donné, critique à l'égard de ses propres constructions, et je dis bien construction et non pas déconstruction, constructions intellectuelles. On trouve par exemple l'image de la construction intellectuelle tout à fait patente chez Descartes dans le discours de la méthode comme dans les méditations, où Descartes dit qu'il vaut mieux parfois détruire les anciennes constructions quand elles s'effondrent ou quand elles sont irrecevables pour reconstruire à nouveau le fond d'après les fondements, dit Descartes. Et c'est justement pour ça qu'il écrit un ouvrage qui s'appelle « Méditation métaphysique » où il essaye de retrouver les fondements d'une pensée et d'une pratique qui serait partageable par tous les hommes. Je vous rappelle la première phrase du discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ce qu'a cherché à faire toujours la pensée occidentale, c'est de partager. Partager avec les autres peuples, partager avec les autres cultures, partager avec les femmes, partager avec les faibles, partager avec les enfants, partager un même souci de l'âme, un même souci d'universalité qui permettrait à chacun de trouver un sens à l'existence. Car en dernière instance, l'enjeu de tout cela, c'est de donner un sens à ce que Montaigne appelait la condition humaine. On n'est pas sûr que l'être humain possède une nature ou une essence, mais on a, comme dit Montaigne, une condition. Et la condition de l'être humain, c'est la finitude. C'est-à-dire, en dernière instance, c'est la mort. Donc, est-ce qu'il est possible de donner un sens qui transcende la mort? Les religions ont leur réponse, la philosophie a la sienne, la culture a encore la sienne. C'est-à-dire qu'on essaye, en créant des œuvres qui font autorité, c'est-à-dire qui nous amplifient, hein, l'auctoritas, d'augérer, qui veut dire augmenter en latin, en créant des œuvres de culture, on essaye d'augmenter le souci de soi ou le soin de son âme pour donner un sens à notre existence. Or, ce qu'il y a de remarquable dans la déconstruction, ou dans les différentes formes de déconstruction aujourd'hui, je ne vise pas simplement celle de Jacques Derrida et de ses épigones, c'est qu'elle met en cause la recherche même d'un sens. Il n'y a plus de sens, tout est insensé, au sens où l'avait déjà entrepris le premier Nietzsche dans le paragraphe 125 que vous connaissez bien du Gai Savoir, qui s'appelle précisément l'insensé, où l'on voit un insensé ou un fou qui, en plein jour, avec une lumière, clame partout que Dieu est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens. Et d'ailleurs, la suite du texte de Nietzsche que je suis en train de citer le montre très bien. Où allons-nous? Nous avons détaché la terre de son soleil. Où va-t-elle? Vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche? Non, elle est précipitée dans le fond. C'est-à-dire que la révolution copernicienne qui a détaché notre terre de son soleil, ou qui a détaché plutôt notre terre de son centre, l'homme n'est plus au centre du monde, l'homme est donc décentré et même excentré, pour ne pas dire excentrique, c'est aller plus loin. Le contre-coup de la révolution platonicienne via le personnage de l'insensé de Nietzsche a débouché sur une pensée européenne qui devient elle-même insensée et qui refuse absolument de chercher le sens. Je cite un certain nombre de déconstructeurs dans l'avant-dernier chapitre qui essaye de montrer effectivement que la raison est vide, ou est vide la pensée, qu'il n'y a plus de sens à rechercher, que chercher le sens, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'on est dans une sorte de nihilisme, dénoncé déjà par Nietzsche, et surtout par Heidegger dans ses textes sur Nietzsche, selon lequel rien n'aurait de sens, sinon la déconstruction. Et c'est bien ce que dit en particulier Derrida dans ses différents textes, en particulier dans son texte majeur, La dissémination de 1972, où Jacques Derrida veut non pas ensemencer la culture, mais disséminer la culture en jetant tous les éléments culturels dont nous disposons, et Dieu sait qu'il en disposait du fait de sa grande culture, je sème à tout vent, ou plutôt je dissème à tout vent, pour reprendre le mot fameux, afin qu'il n'y ait plus de fruits en tant que tels. Ce qui est mis en cause chez les déconstructeurs, c'est que la culture puisse avoir des fruits, c'est-à-dire puisse avoir un sens. Et donc, ce qu'ils font, quand vous les étudiez de près, et c'est ce à quoi je me suis employé, c'est à chaque fois de prendre tous les éléments culturels, la philosophie, la politique, la morale, l'économie ou d'autres champs de la réflexion, et qu'ils essayent de déconstruire en montrant qu'il y a des contradictions internes. Et on s'aperçoit que la déconstruction est essentiellement performative, au sens que Austin, le grand logicien américain, a donné à ce mot, c'est-à-dire qu'elle énonce ce qu'elle est en train de faire. Mais on ne voit jamais les résultats, en quelque sorte. Qu'est-ce qui arrive après la déconstruction? On a envie de dire, la déconstruction, so what? La déconstruction, quoi d'autre? La déconstruction, pourquoi et faire? Après, ça sert à quoi? Sinon, à revenir sans arrêt sur des textes, sur des prétextes, sur des contextes, sur des métatextes, où l'on déconstruit sans arrêt la grammaire, la logique, la raison, le logocentrisme, pour reprendre l'expression derridienne, sans jamais aboutir à quelque chose. Et en particulier, on a envie de dire aux déconstructeurs, comment allez-vous régir la société? Comment allez-vous choisir une direction politique? Comment allez-vous faire en sorte de diminuer la misère du monde? Très souvent, les déconstructeurs se veulent critiques, engagés près de la révolution, ou engagé à l'extrême gauche, mais ce n'est pas les jeux rhétoriques de la déconstruction enseignés dans les universités américaines ou dans certaines universités françaises qui vont permettre de réduire la faim dans le monde ou la misère dans le monde. Il faut bien construire quelque chose, et construire non seulement physiquement, mais intellectuellement.
Donc, si je comprends bien, l'idée européenne a été, donc par un effet de folie, comme vous l'indiquiez, de la postmodernité, l'idée européenne a été, attaquée...
Pervertie aussi.
Pervertie par ce monde de la déconstruction, qui effectivement est un monde, c'est ce que vous disiez, de la stérilité, c'est-à-dire ne pas construire, mais effectivement être dans...
Si vous me permettez une intervention très très brève, de la stérilité, quand vous lisez la dissémination de Derrida dont je parlais tout à l'heure, Derrida dit bien qu'il préfère une trace vaine à une trace féconde. Quand il parle de l'émission de sens en le rapprochant de l'émission de sperme, il dit bien qu'il vaut mieux perdre sa semence, en reprenant d'ailleurs une phrase de Platon, dans les lois où Platon critique la masturbation qui consiste à perdre la semence en pure perte, puisqu'on n'enfante pas une femme, Derrida reprend cette expression en disant que la dissémination est la perte d'une semence, c'est une répétition de mort, dit-il. Et je crois que c'est effectivement une stérilité. On ne peut pas se contenter de déconstruire tous les fondements de l'existence sur lesquels on vit, il faut bien construire quelque part.
Alors souhaitons effectivement, et on va s'arrêter là, donc je rappelle votre livre « Le procès de l'Europe, grandeur et misère de la culture européenne », souhaitons que ce livre puisse freiner un tout petit peu ce mouvement brownien de la déconstruction pour elle-même, c'est ce que vous disiez, plutôt que pour quelque chose, et que l'équilibre que vous critiquiez entre une démesure qui devrait ou aurait dû trouver en elle-même sa propre mesure, que cette démesure livrée à sa démesure elle-même, donc une forme de d'hubris de la démesure qui n'en finit pas de se démesurer, que cela puisse s'arrêter ou puisse être un peu tenu en échec par...
Oui, et si vous le permettez, reprendre une expression que j'ai oublié de citer tout à l'heure, que l'on puisse retrouver ce que Karel Kozik, le grand philosophe marxiste de Prague, appelait l'architectonique. La pensée européenne a toujours été architectonique, c'est-à-dire qu'elle a construit des éléments qui s'emboîtaient les uns avec les autres pour construire et pour édifier, pour reprendre l'idée d'édification, une construction intellectuelle importante qui s'est appelée la rationalité. Or, la pensée actuelle, en Europe, en tout cas en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, a tendance à être désarchitectonique, c'est-à-dire à déconsidérer tout ce qui est constructible à partir des principes ou des axiomes de base.
Donc à déconstruire, à déconsidérer, à être plutôt dans la stérilité que dans ce qui engendre, ce qui permet de...
En tout cas, si de se contenter tout simplement de déconstruire. Que la déconstruction soit nécessaire lorsqu'il y a des oblitérations, qu'il y a des occultations qui doivent être dégagées, tous les philosophes l'ont dit. Par définition, la philosophie de Platon jusqu'à Kant, pour ne pas dire jusqu'à Heidegger, a consisté à mettre en cause des occultations et à essayer de les désobstruer en quelque sorte, c'est-à-dire d'être critique. Donc la déconstruction est une sous-partie ou un sous-menu, comme on dirait aujourd'hui sur ordinateur, est un sous-menu de la critique. Mais que cette critique soit uniquement une critique déconstructive et jamais une critique constructrice, c'est là évidemment que le bât blesse.
Très bien. Mais écoutez, je renvoie donc nos auditeurs à votre dernier livre, donc « Le procès de l'Europe, grandeur et misère de la culture européenne », qui effectivement est une meilleure compréhension, me semble-t-il, de ce qu'est l'Europe et qui vient s'opposer ou qui vient apporter un autre son de cloche à tout ce que nous entendons sur cette Europe qui devrait, à entendre les déconstructeurs en vogue, qui devrait disparaître progressivement pour n'avoir plus de raison d'être, pour être dans cette vacuité substantielle dont on parlait préalablement. Jean-François Mattei, merci.
Merci de votre invitation.
Je vous en prie.